question relativement à ce qui avait été dit précédemment. N'est-ce pas dans l'expression, dans l'expérience de l'amitié, que se pose avec le plus d'acuité la question de la substance ? C'est sûr, se pose la question, la résolution ne peut être que métaphysique. Hein. Comprenez bien, l'amitié ne nous donne pas la dernière solution, puisque nous restons dans l'activité morale, dans l'activité humaine, dont la référence c'est l'homme. Et la métaphysique, la référence, c'est l'être. Est-ce que la substance a comme référence l'homme ou l'être ? Posez-vous la question, je réponds. Vous découvrez la substance en fonction de l'être, pas en fonction de l'homme. En fonction de l'homme, vous découvrez l'âme, en philosophie du vivant. L'homme ne donne pas la dernière solution de l'être. C'est ça qui est important. L'amitié, très très bien, mais ce n'est pas la dernière solution. Elle pose des problèmes, avec une très grande acuité. Ça, je suis persuadé que c'est l'amitié qui vous pose, quand on réfléchit sur l'amitié, qui vous pose les problèmes fonciers par rapport à l'âme et les problèmes fonciers par rapport à l'existence d'une première personne. Donc, c'est extrêmement important au point de vue expérience. Et cette expérience, si on réfléchit bien sur l'expérience de l'amitié, elle permet le dépassement de l'homme, le dépassement de l'éthique. Au point de vue philosophique, l'homme n'est pas la dernière solution. L'homme est celui qui, dans ce qu'il a de plus profond dans son cœur et dans son âme, qui pose les vrais problèmes métaphysiques. Donc, l'amitié, c'est une magnifique propédeutique pour entrer en métaphysique. Mais il faut toujours bien distinguer les deux. L'amitié ne supprime pas la métaphysique. L'amitié ne nous donne pas toutes les réponses au point de vue de l'être. La métaphysique regarde le point de vue de l'être, tandis que l'amitié regarde l'homme. L'ami. L'ami, c'est l'homme que je connais, c'est l'homme que j'aime. Là, vous voyez, c'est l'homme que je connais, c'est l'homme que j'aime. Donc, c'est toujours par rapport à ma réaction vis-à-vis de l'homme. Ma meilleure réaction par rapport à l'homme, c'est l'amitié. L'homme le plus merveilleux que je connais, c'est mon ami. Mais c'est toujours l'homme, c'est pas Dieu, c'est pas l'être. Vous voyez ? Alors, que la métaphysique nous met à l'entrée, que l'amitié nous met à l'entrée de la métaphysique, ça c'est très juste. Et je crois que si on réfléchit sur l'amitié, c'est une porte d'entrée magnifique pour la métaphysique. C'est vrai. L'être le plus parfait que vous expérimentez, que vous touchez philosophiquement, c'est l'ami. C'est pas l'homme abstrait, c'est l'ami. L'homme abstrait vous conduira à la quiddité, à la substance seconde, mais pas à la substance première. Et donc pas à la substance principe de ce qui est. Oui, c'est quand même très important de bien distinguer l'intelligibilité que vous avez quand vous posez l'âme et l'intelligibilité que vous avez quand vous posez la substance. C'est deux intelligibilités à deux niveaux différents. La substance est saisie au niveau de l'être, l'âme est saisie au niveau du vivant. Si vous n'arrivez, alors il faut arriver à distinguer, et ça c'est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, arriver à distinguer ce qui est le niveau du vivant et ce qui est au niveau de l'être. Au niveau du vivant, ce qui est de plus élevé que vous saisissez dans le vivant, c'est l'ami. L'ami est pour moi le vivant le plus parfait. C'est le vivant qui me fait connaître la vie. Mais connaître la vie ne suffit pas. Il faut dépasser le vivant et saisir ce qu'est l'être. Ce qui est très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que rien ne dépasse la vie. Alors quand on voit la vie comme un absolu, on arrive à supprimer l'âme. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Et ça, c'est visible, on le voit aujourd'hui. Si on veut tout simplement comprendre ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est jamais au-dessus de la vie. Les meilleurs théologiens, même les meilleurs théologiens, ne dépassent pas la vie. Or, vous ne pouvez pas faire une théologie sans passer par la métaphysique. Et donc, il s'agit de sauver la théologie. Pour nous, philosophe, mais c'est pour nous, c'est mis entre parenthèses. Si vous n'arrivez pas à saisir l'être au point de vue métaphysique, vous allez faire une théologie fausse. Vous ramènerez Dieu au premier vivant. Et vous n'atteindrez jamais le point de vue de la personne. La personne se saisit au niveau de l'être. Parce que la personne implique le point de vue de l'intelligence, et mon intelligence ne se découvre comme intelligence, mon intelligence se découvre comme intelligence uniquement quand j'ai saisi ce qui est en tant qu'être. Et ça, c'est capital. C'est difficile, je suis tout à fait d'accord. C'est difficile d'être quelqu'un d'intelligent. C'est pas commode. D'être un herbivore, c'est facile. Mais un être intelligent qui saisit l'être de l'herbe, c'est pas commode. Tandis que l'herbivore, il saisit l'herbe comme herbe. Et ça le contente. Il saisit la salade comme la salade. Ça le contente. L'être de la salade. Quand vous prenez de la salade, pensez à l'aide de la salade. Et vous verrez que ce n'est pas commode. Vous voyez, le très grand danger de notre monde d'aujourd'hui, c'est de tout ramener au vivant. et ceux qui ramènent tout au vivant sans la métaphysique ne saisissent plus l'âme. Ah, c'est curieux, ça. Ce serait très intéressant à bien voir au point de vue critique, ça. Pour saisir l'âme humaine, il faut la métaphysique. Parce que je peux saisir l'intelligence comme intelligence que par le point de vue métaphysique. L'être en tant qu'être. Et non pas la vie. Alors, c'est ça qui est très curieux. Ceux qui restent uniquement au niveau de la vie, progressivement, on arrive à avoir une vision positiviste de la vie. Ce qu'on constate, et uniquement ce qu'on constate. Or, je n'ai jamais constaté dans une expérience pure mon âme. J'ai constaté la complexité de mon corps. J'ai constaté l'unité de mon corps. Alors, ça me pose une question. Qu'est-ce qui fait l'unité de mon corps? Alors, par là, je vois que l'unité de mon corps ne peut pas s'expliquer par l'âme. Parce qu'il y a le corps. Et l'unité de mon corps ne peut pas s'expliquer par le corps. L'unité du corps et de l'âme ne peut se faire qu'au point de vue métaphysique. Deuxièmement, vous avez montré l'analogie, c'est-à-dire la distinction et quelque chose de commun entre la nature, l'âme et la substance. Tous les trois sont premiers. Sont premiers selon la forme, selon l'analyse de la forme. La nature forme, l'âme, principe formel du vivant, la substance, principe formel selon la forme de l'être. Donc, tous les trois, c'est selon le principe formel, selon la forme. Donc selon la détermination, il y a donc trois grandes déterminations. La détermination naturelle, la détermination de l'âme du vivant et la détermination de l'être. Peut-on dire qu'on découvre un analogué de la substance dans chacune des parties de la philosophie? Oui, dans la recherche de la cause formelle. Dans la recherche de la cause formelle, vous trouvez les analogués de la substance. Et ces analogués de la substance, c'est la nature, c'est l'âme. C'est-à-dire la cause formelle. La recherche des causes, c'est la structure de mon intelligence qu'on dévoile grâce aux interrogations. Vous avez certaines interrogations type en quoi, qu'est-ce, l'origine, la finalité. Cherchez s'il y a d'autres interrogations type commande l'analyse. Toute analyse est commandée par ces quatre ou ces cinq, si on met la causalité exemplaire. Ils sont commandés par ces recherches. C'est le comment qui est l'éveil de mon intelligence. Mon intelligence s'éveille en posant une question. Si vous n'avez jamais posé de question, votre intelligence continue de dormir. entendu dormir. Il y a un bon oreiller. Et on continue de dormir. Alors on répète. Tant qu'on répète, on ne fait pas de philosophie. On passe des examens. On répète. Mais quand on pose des questions, mon intelligence s'éveille. Alors, très souvent, mes interrogations sont vis-à-vis du comment. Auguste Comte. Du comment, ça c'est positif. Comment cela se fait ? Mais il y a d'autres interrogations plus profondes, savoir ce qu'est la réalité en elle-même. En elle-même, en quoi elle est, ce qu'elle est, d'où vient-elle, en vue de quoi. Vous voyez, il faut que ces interrogations, vous ne fassiez pas seulement les répéter. Il faut que ces interrogations soient pour vous la vie de l'intelligence. Votre intelligence progresse dans la mesure où vous posez ces interrogations et que vous voulez les résoudre. Et vous pouvez les résoudre à trois niveaux différents. Il n'y a pas quatre niveaux. À trois niveaux différents. Le niveau naturel. Toute réalité que je vois, que je constate, sont mobiles. Toutes les réalités que je vois, que je constate, sont mobiles. C'est pour ça qu'un savant physicien dira « le monde est purement relatif ». Parce que le mouvement est toujours relatif. Or, vous voyez, dans l'expérimentation, vous voyez le vivant. Ah, parce que vous êtes vous vivant. Je suis dans un monde physique et je suis vivant. Et je mange ce monde physique. Puisque le vivant, c'est celui qui mange. Il se meut. Et il se meut premièrement en mangeant. Tous les matins, quand vous prenez votre petit déjeuner, pensez que vous mangez. En louant Dieu. Phénomène très particulier, le vivant dévore. Le vivant a de l'appétit. Il y a une expérience. Qu'est-ce que c'est que dévorer ? Alors on le fait avec beaucoup de distinction, parce qu'on est des vivants distingués, mais on dévore. Regardez le chien quand il dévore. Sa langue, oulala, et ça marche. Regardez le lion quand il dévore. Toutes les espèces d'animaux du vivant, vous pouvez les distinguer en tant qu'ils dévorent. Un lieu magnifique, le vivant dévore. C'est une définition du vivant, il dévore. Mais ce n'est pas la seule. Pour certains, dévorer est tellement puissant qu'il pense le monde intellectuel comme le monde végétatif. Hegel. Je dévore intellectuellement. Il y a des gens qui dévorent des livres. Et la machine peut toujours marcher. Quand c'est terminé, c'est un autre. Quand c'est un autre, c'est un autre. On dévore. Et c'est vrai, le vivant fait que quelque chose qui est extérieur à moi devienne moi. C'est ça, dévorer. Quand on dévore, il y a toujours un passif. Il y a toujours une victime qu'on dévore. Alors, peut-on dire découvre un analogue de la substance dans chacune des parties de la philosophie. Tout à fait. même dans la philosophie pratique. Parce que vous recherchez toujours la causalité formelle. C'est ce qu'on recherche le plus. C'est ordinairement cette causalité formelle qui est la ligne dominante. Ce n'est que en éthique et en métaphysique que la causalité formelle est dépassée par la causalité finale. Donc c'est important de savoir que seul en éthique, j'ai l'analogue de la fin. Parce qu'en philosophie de la nature, je n'ai pas l'analogie de la fin, puisque la fin est posée à partir de la forme. De quelle manière cela nous aide-t-il à mieux comprendre ce qu'est la substance ? Ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est la substance, parce que la recherche philosophique de l'être en tant qu'être présuppose la recherche philosophique de la nature au niveau formel, au niveau matériel, au niveau final. Et c'est au point de vue des réalités physiques que j'ai le contact direct. Donc vous avez l'expérience. Toutes vos expériences sont liées aux réalités physiques. Toutes vos expériences. Donc ne comprenez pas que la métaphysique puisse peut-être comme un chemin indépendant de la philosophie de la nature, de la philosophie du vivant. Non. Elle dépasse ces deux philosophies. Elle les dépasse et elle fait appel à la philosophie pratique quand il s'agit de la fin. Je ne regarde pas ma philosophie pratique d'une façon spéciale lorsqu'il s'agit de la recherche de la cause formelle, c'est-à-dire de la substance. Parce que étudier le formel de l'acte humain, c'est matériel. Le formel de l'acte humain est final. Il y a ce jeu des diverses causalités qui est très important à saisir et qu'on doit saisir progressivement. Vous les retrouvez tout le temps. Dans toute la philosophie, vous retrouvez ces analogués. La recherche de la cause formelle, la recherche de la cause efficiente, la recherche de la cause matérielle, la recherche de la cause finale. C'est le propre de l'homme, ça. C'est le propre de mon intelligence humaine. Je ne sais pas comment fait l'ange, je ne sais pas. Comment fait Dieu, je ne sais pas non plus. Je sais que Dieu, en se connaissant, connaît tout. Il a la chance, hein. En se connaissant, il connaît tout. Tandis que moi, c'est pas en me connaissant que je connais mon voisin. C'est trop commode, hein, de projeter sur le voisin ce que je connais en moi-même. Or, on fait ça constamment. Alors, à ce moment-là, on ne connaît pas l'autre. Connaître l'autre, ah, c'est pas commode, parce qu'il faut sortir de soi. Très souvent, l'autre, on le connaît en disant « c'est mon prolongement ». Parce qu'on jette, on projette sur l'autre toutes nos expériences de nous-mêmes. Et on croit que l'autre, on le connaît parce qu'on se connaît. Dans l'amitié, je connais mon ami comme un autre moi-même. Mais comme un autre moi-même, je sais que l'ami est autre que moi. musqués sont là. Donc, je découvre là l'analogie, justement. Il est semblable et il est autre. Alors, de quelle manière cela nous aide-t-il à mieux comprendre ce qu'est la substance ? Ça nous aide à mieux connaître ce qu'est la substance parce que ça nous fait mieux connaître ce que l'interrogation en vue de découvrir la cause formelle. La nature est saisie d'abord comme cause formelle du mouvement. L'âme est saisie comme cause formelle des opérations vitales. Et la substance est saisie comme principe déterminant de l'être. Donc, toutes ces analogies m'aident à assouplir mon intelligence, à être très rigoureuse dans la recherche d'une causalité. Et non pas parce que c'est difficile de tomber dans la causalité matérielle. C'est pas commode de rester droit dans la recherche de la causalité formelle. Très facilement, on regarde la causalité matériel. Très facilement, on regarde la causalité efficiente. Ordinairement, les deux grandes confusions se font du côté de la matière et du côté de l'efficience. Très rarement du côté de la finalité. Ça se fait quand même de temps en temps. Mais quand on dit la finalité des rats, c'est de réveiller l'homme parce qu'il a saisir ses doigts de pied. Il va les manger. C'est pas la finalité du rang. Mais quand on applique à la nature directement la finalité, on fait des grosses erreurs. Parce que c'est la forme qui me permet de saisir la fin des réalités physiques, pas autrement. Si je veux les saisir directement, je fais une erreur. Je fais de l'anthropomorphisme. L'araignée est faite pour prendre le sang de l'homme. Les prises de sang. Élever des araignées. En dehors de l'homme, peut-on découvrir un principe radical des opérations vitales ? Alors, en dehors de l'homme, peut-on découvrir un principe radical ? Alors, principe radical, c'est pas précis, hein, puisqu'il y a le principe selon la matière, le principe selon la forme. Qui dit principe dit toujours radical. Hein ? Parce que ce qui est premier, ce qui est premier est radical, on ne peut pas aller au-delà. C'est sans radical, donc il y a une espèce de petite tautologie. Hein ? Peut-on découvrir, en dehors de l'homme, peut-on découvrir un principe des opérations vitales ? Pas radical. Il ne faut pas dire que l'être, c'est le principe radical. Non, c'est le principe d'être. Ce n'est pas la même chose. Parce que, vous voyez, là, vous tombez dans l'erreur de considérer que le fondement est un principe. Le fondement n'est pas un principe. C'est la modalité du principe matériel qui très souvent est fondement. L'archéologue sait ça très bien. Il découvre un fondement, puis ensuite, il va plus loin dans sa recherche, il découvre un autre fondement, quelque chose de plus radical. Et quand il découvre ce quelque chose de plus radical, il se demande si c'est le dernier principe. du côté matériel. Mais qui dit principe, dit fondement, dit premier. Alors, dans la recherche du devenir, comme l'archéologue, ben, il ne sait jamais si c'est vraiment le dernier plancher de la maison qui saisit. Parce que c'est pas inscrit. C'est pas inscrit sur le plancher. Je suis le dernier plancher. Derrière moi, c'est la terre. C'est pas inscrit. Il le découvre quand justement il trouve le roc. Alors il dit c'est le dernier. Et le dernier ne se découvre pas par lui-même. Il découvre en fonction de ce qui vient après. Ce qui vient après n'est plus un fondement. Donc, c'est ce fondement que j'ai découvert qui est le dernier. Vous voyez, connaissance négative. Alors, en dehors de l'homme, peut-on découvrir un principe radical des opérations vitales? Tous les animaux, il y a un principe de leur mouvement. Et c'est pour ça qu'on disait avant, il y a une âme. Alors on prenait âme comme principe formel de la vie. Une vache, dès que le petit veau est né, le petit veau sait marcher. On ne lui a pas appris. C'est curieux. On ne lui a pas appris. Il marche tout de suite. L'homme, on lui apprend à marcher. Le petit veau, non. Et pour tous les animaux, c'est comme ça. Le petit oiseau, ah, il met du temps avant de se mettre à voler. C'est pour ça que quand il vole trop vite, il dégringole. Il tombe. Alors que voler pour le oiseau, c'est naturel. Mais cette nature ne vient pas tout de suite. Il faut que ça pousse. Et il faut distinguer par là la nature qui est tout de suite donnée et la nature qui est acquise, mais naturellement acquise. Il est naturellement acquis à l'homme de marcher. Mais l'homme peut très bien ne plus savoir marcher. Et il reste un homme. La marche ne définit pas l'homme. Parce que ça définit l'animal bipède, quadrupède et à multiples pattes. Ça ne défie pas ce qu'il est, si c'est matériel. Donc, en dehors de l'homme, peut-on découvrir un principe radical des opérations vitales? Oui, le principe formel. C'est un mouton, c'est une vache. C'est le principe formel de la vie. Les anciens appelaient ça l'âme. Nous disons un principe formel, ce qui est la même chose. Puisque âme était pris dans ce sens-là, dans un sens très général. Tout vivant avait une âme. Le vivant de vie végétative avait une âme de vie végétative. Il pousse tout seul. Il n'a pas besoin de tirer. Il pousse tout seul. Et avec une force étonnante, parce que quand il est caché par une pierre, il fait des tours. La vie a cette détermination très étonnante qui fait quand il y a des obstacles matériels, la vie s'incline. Elle n'est pas têtue, la vie. principe vital qui anime l'animal a une souplesse très étonnante. Souplesse d'adaptation. Souplesse d'adaptation par rapport à la cause matérielle qui, très facilement, le détermine, ou plus exactement, très facilement, arrête sa croissance. Alors, il fait le tatou. Mais il y a toujours un principe formel dans tout vivant. Alors, quand vous avez la science biologique, est-ce que vous saisissez le principe formel? Alors, les sciences, au point de vue moderne, sont très souvent descriptives. Donc, ne cherche plus les causes. Décrit. Et on décrit les cas particuliers où il n'y a pas développement qui est arrêté. Vous décrivez tout ce qui arrête le développement visible. Mais le principe formel, il est invisible. Vous voyez ces effets. Alors, vous décrivez ces effets. Vous ne cherchez pas la cause. Alors ça, c'est toute la science moderne. La science moderne cherche les lois et non pas les causes. Alors il faut bien distinguer les deux. Les lois, c'est toujours une relation antécédent et conséquent. C'est un lien de nécessité entre l'antécédent. Alors, puisqu'on ne cherche plus les principes, et qu'on cherche l'écho, qu'on cherche les lois, on cherche uniquement le lien qui existe entre antécédent et conséquent. Un lien de nécessité. Et quand il y a un lien de nécessité, vous avez la loi. Et comme ce lien de nécessité n'est jamais absolument nécessaire à cause de la cause matérielle, vous dites, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous savez très bien que c'est la plupart du temps. Parce que vous n'arrivez pas à connaître toutes les virtualités de la matière. Et il peut y avoir des obstacles qui font émerger d'autres virtualités de la matière. Ce qui explique que les lois, la science moderne qui cherche les lois, ne cherche pas les causes. Le philosophe cherche les causes. Et c'est la très grosse différence entre la recherche des lois et la recherche. Vous n'avez pas une loi selon la matière, une loi selon la forme, une loi selon l'efficience, une loi selon la finalité. Non. La loi réunit tout ça. Et vous ne cherchez plus. Vous ne cherchez. Votre analyse scientifique s'arrête à la loi. C'est très gros, hein. Comparativement à la recherche philosophique des diverses causalités. Alors, c'est très important de saisir la différence entre la loi et le principe. Vous n'avez pas une loi substantielle. La substance n'est pas une loi. La substance est un principe. Qui dit principe dit quelque chose de réel. Qui dit loi qu'il y a un fondement dans la réalité que je peux découvrir par l'expérience. La loi, c'est ut in pluribus. C'est toujours ut in pluribus, dans la plupart des cas. Mais la loi peut toujours, parce que la loi regarde des réalités physiques, la loi peut toujours faire faillite. Il y a toujours quelque chose qui peut se cacher. Parce que la matière possède des virtualités infinies. Donc vous n'arriverez jamais à avoir une loi exhaustive quand vous regardez des réalités physiques. Parce que la matière ne se réduit pas à la loi. Dans la loi, vous avez surtout les causes. causalité efficiente et formelle. La fin et la matière ne sont pas captées par la loi. Il faut constamment venir de ça pour arriver à discerner bien dans votre tête la différence entre la loi et le principe. Et ça, c'est l'intelligence. On peut expliquer la différence entre la loi et le principe, mais il faut le saisir. La loi n'est jamais un principe. Et le principe, c'est la philo. La loi, c'est la science. Et le positivisme consiste à confondre loi et principe. Loi et principe égaux. Ça fait un amalgame. Quand on dit un amalgame, on sait très bien ce que ça veut dire. On met tout dedans. Et on regarde que c'est très différent, c'est des causalités tout à fait différentes. Ça fait rien. On met toutes les conclusions dans un même sac. Alors ça, c'est l'amalgame, c'est les sophistes. C'est la rhétorique. Ce n'est plus la science. Donc, distinguez bien le régime de la philosophie, ses idées principes, des causes, la science, les lois, et la rhétorique, les amalgames. Aussi, ces causes entités, les oppositions. Et vous ne distinguez pas. Ce n'est pas des lois. C'est un amalgame. Vous mettez les conclusions les unes à côté des autres, sans voir que c'est tout à fait différent. Donc là, point de vue hygiène intellectuelle, si on ne distingue pas les trois, en fait, la plupart du temps, les intelligences modernes n'arrivent pas à distinguer la loi du principe, parce qu'il n'y a plus de philosophie. Alors, c'est antécédent et conséquent. On cherche la nécessité de l'antécédent et des conséquents. Une relation. Une relation nécessaire entre antécédents et conséquents. Tandis que le principe, c'est quelque chose. Non. C'est pas une relation. Le principe, c'est principe et cause. Donc, pour mieux saisir ce qu'est la substance, il faut saisir ce qu'est la nature formelle, ce qu'est l'âme comme principe formel du vivant. Et dans l'homme, sa finalité qui dépasse sa nature. Et l'homme est frontière entre le monde naturel et le monde des esprits. Donc, il y a quelque chose dans l'homme, par son point de vue, de finalité, qui appelle la métaphysique. Le domaine de l'être. Et dans le domaine de l'être, tout l'ordre des causalités est différent. Puisque, en métaphysique, il y a simplement la recherche des deux causalités, formelle et finale. De recherche de la causalité efficiente, métaphysique, puisque l'efficience, c'est dans le devenir. En métaphysique, au point de vue de l'être, vous avez que la recherche de la détermination formelle, cause substantielle et détermination finale. Alors, vous avez très souvent la causalité formelle qui est au fond une causalité exemplaire, la mesure. Mais ce n'est pas au niveau de l'être. C'est au niveau de ce que l'homme est capable de faire. Alors, ce que l'homme est capable de faire, la causalité formelle, exemplaire, je veux dire, la causalité exemplaire joue un très grand rôle. L'idéa de l'artiste. C'est pas seulement la forme, c'est l'idéa de l'artiste. Et les mesures de son activité fabricatrice, de son activité du facturé. La substance, c'est l'ultime recherche de la cause formelle, puisque en dehors de l'être, il n'y a rien. C'est l'ultime recherche de la cause formelle, c'est la substance. Et toutes les autres causalités formelles, l'âme, la cause formelle, m'aide à comprendre ce qu'est la substance. Ce qui est très curieux, c'est que dans cette dernière recherche de la substance, chez Aristote, il y a le dépassement de la forme et le dépassement de la matière. Le dépassement de la forme, parce que la substance, elle est forme, mais elle est plus que la forme. La nature forme détermine. La substance, elle aussi détermine, mais elle fait plus que déterminer. Elle est principe d'être. Principe selon la forme. Dire simplement la substance cause formelle, c'est pas tout à fait juste. Il faut dire la substance détermine ce qui est la réalité selon la forme, selon notre manière de connaître, selon la forme. Donc la substance qui est détermination dans l'ordre de l'être est plus qu'une forme. Parce que la forme, c'est tout relatif à la matière. Or, la substance n'est pas saisie relative à la matière. La substance est saisie relative à l'être, comme ce qui détermine l'être. Et ce qui détermine l'être est plus que la forme. C'est la forme. Mais c'est plus que la forme. C'est dans l'être quelque chose de premier. Et donc elle est plus que la forme. Si vous identifiez substance et forme, vous aurez la quiddité, l'intelligibilité. Mais vous n'aurez pas ce qu'est vraiment la substance. Parce que la substance est plus que la forme. Elle est plus que la forme et elle est plus que le sujet. Le sujet par excellence, c'est la matière. Et la forme n'est pas matière. Mais elle peut remplir tous les services de la matière. Ce sens est en principe dans l'ordre de l'être, elle est capable de recevoir, et non seulement de recevoir, mais de déterminer tous les principes seconds accidentels de l'être. Ce que nous verrons, le propre de la substance qui est comme un sujet, mais qui n'est pas un sujet, mais qui est comme un sujet, elle est capable de recevoir une réceptivité de la substance qui est très étonnante. C'est la mémoire de l'âme, la réceptivité de l'âme. Mais réceptivité au niveau de l'être, au niveau de ce qui est.